L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui vous fait entendre le Finistère, ou plus exactement qui vous fait entendre les gens qui dessinent le Finistère. Nos invités du jour soignent et se soignent. Il est question de santé, d'un vaste problème de santé publique, le diabète. C'est une maladie chronique qui se traduit par un excès de sucre dans le sang avec des conséquences dont on va parler. Alors ça peut être de naissance, le diabète de type 1. Mais dans plus de 9 cas sur 10, on souffre de diabète de type 2. On devient diabétique. Et cette maladie progresse beaucoup. Environ 4,5 millions de personnes sont touchées en France actuellement. Le Finistère reste relativement épargné pour l'instant. Le diabète de type 2, pourtant, on peut le prévenir. On peut aussi le contrôler. Et c'est pourquoi la CPTS du bout du monde, la Communauté professionnelle territoriale de santé, autrement dit les professionnels de santé de la presqu'île de Crozon et aussi Saint-Nic, Trégarvan et Dinéol, la CPTS donc, propose un programme autour de cette maladie, et nos deux invités sont là pour en parler, à savoir Catherine Weber, qui est diététicienne et référence du groupe de travail éducation thérapeutique du patient diabétique de type 2. Et elle est accompagnée d'une patiente, Diana Gergaud, qui a suivi le programme de 9 séances proposées, de 10 séances même, proposées par la CPTS en presqu'île de Crozon. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors, déjà, est-ce que vous pouvez, bon, Catherine, sans doute vous, nous rappeler ce qu'est le diabète de type 2? Je l'ai dit rapidement, mais enfin, peut-être qu'on peut parler des conséquences, surtout des manifestations et des conséquences.
Alors, le diabète de type 2, c'est donc le pancréas qui fonctionne moins bien. Nos cellules ont besoin de sucre pour fonctionner, c'est l'énergie en fait de notre corps. Et quand le pancréas fonctionne moins bien, et donc il sécrète moins d'insuline. L'insuline est une hormone qui va faire rentrer le sucre dans les cellules. Il peut y avoir aussi une insulinorésistance dans le diabète de type 2, c'est-à-dire que l'insuline est sécrétée, mais elle va moins bien fonctionner au niveau des cellules. On va se retrouver avec une glycémie qui augmente, une hyperglycémie. Et effectivement, il y a des conséquences. Donc, c'est une maladie qui est silencieuse. Souvent, quand on est diabétique, on ne s'en rend pas compte. Et par contre, c'est les conséquences, les complications du diabète qui sont embêtantes.
Alors, par exemple, j'ai appris récemment que c'était la première cause de cécité. Ça rend aveugle, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Effectivement, il y a des atteintes donc, de la rétine, des rétinopathies. Il y a des atteintes également au niveau rénal, au niveau des artères, des vaisseaux et des nerfs. Donc il y a pas mal de choses désagréables qui peuvent venir à la suite du diabète.
Longtemps après, enfin,
longtemps
ça met
après,
du temps.
En fait, voilà, c'est sur du long terme quand le diabète est déséquilibré. Si le diabète est bien traité et équilibré, on va empêcher toutes ces complications.
Diana, vous, quand est-ce que vous avez su que vous souffriez de diabète type 2?
À l'âge de 48 ans et j'en ai 65 aujourd'hui.
Et comment vous l'avez découvert?
Par des prises de sang, tout simplement.
Donc vous faisiez un suivi régulier, enfin votre médecin en tout cas.
Et surtout qu'à l'époque j'avais du cholestérol, et donc il m'avait fait une prise de sang globale, et là on a découvert que j'avais du diabète.
En prime.
En prime, et on m'a fait une deuxième prise de sang pour confirmer.
Et donc vous avez été soignée tout de suite
Ah, j'ai été soignée immédiatement, oui. Donc par des cachets à la base.
Oui, c'est ça. Quels sont les traitements, Catherine Weber, les traitements médicaux du diabète de type 2?
Alors, il y a plusieurs sortes de traitements. Déjà, on va parler des mesures hygiéno-diététiques, parce que dans le diabète de type 2, l'alimentation est très importante. Et puis, l'activité physique. Et ensuite, quand ces deux axes sont déjà revus, on va aller sur des traitements oraux au départ du diabète. Et puis les thérapeutiques ont pas mal évolué, donc on a pas mal de traitements maintenant à notre disposition, des injections et de l'insuline aussi. Quand le diabète est vraiment un peu plus avancé, on va passer à de l'insuline, même chez les diabétiques de type 2.
Et les injections, c'est assez facile à réaliser, en fait, c'est ça. Il y a des dispositifs. Vous, par exemple, Diana, vous êtes concernée?
Oui.
Maintenant,
oui.
C'est plus les cachets, voilà.
Non, c'est les cachets et piqûres.
Ah oui, il y a les deux.
On associe, les traitements. Ouais.
Ah oui, donc vous devez contrôler votre glycémie, c'est ça?
Contrôle la glycémie tous les jours, peut-être un peu trop d'après Catherine.
Ah oui, il ne faut pas non plus être obsessionnel.
Si, à ce niveau-là, si. On peut le devenir.
Ah oui. Bah oui, parce que c'est dangereux, non, si vous avez un pic?
C'est... Oui, ça peut être dangereux, on peut tomber dans le coma si c'est trop ou trop bas. Mais disons que c'est un challenge. Il vaut mieux le prendre comme ça parce que c'est tellement déprimant.
Ben oui, c'est Catherine Weber, on peut peut-être revenir sur les facteurs, enfin les différents facteurs, parce qu'il y en a plein en fait qui font qu'on devient diabétique de type 2.
Oui, il y a plusieurs facteurs qui vont être possibles. Alors, comme je vous disais déjà, le mode de vie hein, qu'on peut avoir maintenant, c'est-à-dire qu'on a une alimentation qui a changé, une alimentation qui est très riche en produits ultra transformés.
C'est ça. Les liens sont nets entre l'alimentation qu'on dit ultra transformée et le diabète de type 2.
On voit qu'avec la modification de notre alimentation, ces maladies deviennent de plus en plus importantes. Moins de fibres, moins de consommation de légumes et de fruits, une sédentarité. Qui s'installe beaucoup. Et puis, du coup, on va augmenter le risque d'obésité et de surpoids. Et on sait que, par contre, l'obésité et le surpoids sont des facteurs très, très importants dans l'apparition du diabète.
Ouais, quel est le fonctionnement là, de ça ?
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir une insulino-résistance hein, qui s'installe au niveau, quand on est diabétique de type 2, c'est-à-dire que la graisse qu'on va accumuler, surtout au niveau abdominal, au niveau des organes, va empêcher le bon fonctionnement de l'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules. Donc, on sait que le gras, le fait de prendre du gras au niveau abdominal, n'est pas forcément bénéfique.
Ça peut provoquer, ouais. D'accord.
Ensuite, d'autres facteurs vont être le vieillissement de la population, parce que heureusement, on vieillit de plus en plus tard. Donc, la population vieillissante, on a plus de cas diabétiques.
On devient plus à risque vers quel âge à peu près
Alors, plus à risque, je crois que c'est à partir de 40-45 ans déjà que les apparitions de diabète, on les voit un peu plus. Mais comme je vous dis, ça change parce que notre mode de vie change et on voit de plus en plus de jeunes.
Ah oui.
Plus jeunes, atteints de diabète de type 2.
Même des enfants ?
Des enfants...
Et plutôt du type 1, quoi.
Plutôt du type 1. Ouais, on est plutôt sur du type 1. Ce qu'on voit aussi, le fait qu'on voit plus de diabète aussi actuellement, c'est qu'on le détecte plus aussi. Il y a beaucoup plus de campagnes de dépistage. Notamment, on voit pas mal en ce moment la FD29 qui fait des campagnes de sensibilisation pour dépister. Donc, on dépiste plus. Donc, forcément, on traite un peu plus.
Il y a aussi un facteur génétique quand même.
Voilà, le facteur génétique qui est très important. On sait que quand on a un parent diabétique, on a, je crois, c'est à peu près 30% de risque d'être diabétique soi-même. Et quand on a les deux parents, c'est plus de 50%. Donc effectivement, ça joue.
Vous, Diana, vous savez en gros ce qu'a causé votre diabète, hein, ce qu'a favorisé en tout cas. 48 ans, donc voilà, il y a un facteur âge, on va dire.
Je pense que les régimes d'abord et puis une alimentation déséquilibrée. C'est vrai que j'étais pas très accro aux légumes non plus.
Faut bien le reconnaître.
Faut bien reconnaître qu'on fait des erreurs dans la vie à ce niveau-là. Et puis, pourtant, je trouvais que je mangeais comme mes collègues, les amis que j'avais à l'époque. Elles prenaient des bonbons, des glaces. Mais à midi, sûrement, il y avait une différence. Ils devaient manger des légumes que moi, je ne mangeais pas de légumes ni de fruits.
Parce que les fibres, Catherine Weber, ça protège, c'est ça ?
Les fibres ont un intérêt dans le diabète, mais dans plein d'autres choses. Ils vont avoir un impact sur la glycémie, sur le pic glycémique, en fait. Quand vous allez manger dans votre repas, tout ce que vous mangez va être mélangé dans le bol alimentaire et va faire en sorte que le pic glycémique soit moins important. Si vous mangez moins de fibres, ça va jouer aussi.
Ouais, donc les jus de fruits qu'on pourrait croire, même 100% pur jus, qu'on pourrait croire anodin, c'est pas intéressant, enfin, c'est même plutôt facteur de risque.
Le jus de fruits, c'est du sucre en fait.
Ouais. Ok, bon, on va le redire, on l'a déjà dit, mais on le redit.
Après, il y a des vitamines, il y a des choses intéressantes dans le jus de fruits, mais on enlève les fibres effectivement. Il vaut mieux manger une orange que boire le jus de fruits.
Et c'est vrai que plus ça va, moins on mange peut-être des fruits et légumes purs, tout cas qu'on transforme soi-même. Voilà, il y a ça aussi. Diana, donc quand vous avez su que vous étiez diabétique, comment vous avez réagi ?
J'y croyais pas. Et puis après, c'est la colère. Après, c'est ne pas pouvoir le gérer. Parce que à l'époque, moi, j'avais pas de cours. On m'a dit, vous êtes diabétique, donc pour moi, les sucres... mauvais, c'était les bonbons, les gâteaux, les glaces, mais je n'incluais jamais les pâtes, les féculents, les choses comme ça. Pour moi, c'était du bon sucre. Donc, il y a une mauvaise éducation à ce niveau-là. Et heureusement que Catherine et son association est là, J'ai dit, au moins maintenant, je sais comment régler le taux de sucre et pourquoi ça monte et pourquoi ça descend.
Il y a beaucoup de choses à savoir, en fait.
Il y a énormément de choses à savoir et je la remercie et d'autres personnes devraient assister à ces cours.
Et voilà, parce qu'on est là aussi pour parler de ce fameux programme.
C'est pas des cours, déjà.
Ouais, c'est pas des cours.
Non, c'est pas des cours, mais je m'attendais pas à avoir ce genre de réunion parce que Catherine nous explique, mais elle nous donne jamais de réponse.
C'est embêtant.
Non, c'est bien, parce que c'est à nous de savoir comment l'organisme fonctionne face à divers aliments que vous allez manger. Donc ça, on le retient plus facilement. Mm-hmm. L'ambiance qu'il y a génère au moins une interaction entre le prof et, entre guillemets, les élèves.
Alors ce programme, Catherine, en 10 séances, en quoi consiste-t-il? Enfin, il vient d'où déjà? J'imagine que ce n'est pas la CPTS du bout du monde qui l'a inventé.
Alors c'est important de savoir que c'est un programme d'éducation thérapeutique du patient. Donc l'éducation thérapeutique du patient, c'est une approche un peu différente de ce qu'on peut voir peut-être dans les consultations classiques. C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre le patient au centre avec essayer de comprendre un petit peu ses besoins, ses difficultés et adapter effectivement ce qu'on va lui amener comme connaissance. L'idée, c'est de le rendre autonome, qu'il comprenne sa maladie et qu'il soit le plus possible autonome, que ce soit avec ses traitements ou dans sa vie de tous les jours. Donc là, le programme qu'on propose avec la CPTS, c'est un programme qui est à la base porté par le dispositif d'appui et de coordination d'appui santé Nord Finistère, donc à Guy Pava. Donc c'est eux qui sont propriétaires du programme Diabiroise, qui est dispensé depuis des années et des années. Sauf que nous, pour le territoire de la CPTS, les patients étaient obligés d'aller sur Guy Pava pour bénéficier de ces séances collectives.
C'est ça, de Crozon et même de Saint-Nic ou Trégarvan, ça fait un peu loin.
Tous les patients de ce territoire étaient obligés de se déplacer. Donc nous, notre volonté, donc avec le groupe de travail d'éducation thérapeutique, c'était de redonner en fait l'accès à ces séances en presqu'île, en local. Donc on est en train justement de signer une convention avec Appui Santé pour pouvoir déployer ces séances. Donc elles vont être, on ne va pas les toucher, hein, c'est des séances qui existent, mais on les déploie. Donc pour ça, on a aussi formé des professionnels de santé sur la presqu'île qui n'étaient pas formés à l'éducation thérapeutique.
Ah oui, vous serez combien alors
Donc là, on a formé 15 professionnels.
Diététiciennes,
toutes sortes de professions, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a formé des médecins, des infirmières, des kinés, des sophrologues, enfin une sophrologue, j'essaie de ne pas oublier personne. on a une patiente aussi qui a bénéficié du programme et qui s'est formée pour être patiente, donc quelqu'un d'autre.
Hein, ah oui, c'est pas Diana.
Non, une autre patiente qui a bénéficié du programme à Guy Pava et qui s'est formée pour pouvoir nous aider dans l'animation de ces séances. Donc voilà, c'est plusieurs séances qu'on peut déployer à la fois en individuel et en collectif. Donc nous, c'était surtout le collectif qui nous intéressait parce qu'on n'avait pas ça sur la presqu'île.
Mais ce sera plutôt en groupe, quoi. Même s'il y a quand même aussi
des possibilités de faire de l'individuel, parce que certaines personnes n'ont pas forcément envie, voilà, d'échanger. On trouve qu'il y a une force en fait dans le collectif parce qu'il y a des échanges. Et ce que disait Diana, c'est qu'en fait, nous, on n'est pas là pour répondre à des questions. On est là pour les faire réfléchir sur une thématique. Donc, en fonction du thème de l'atelier, on fait réfléchir. Et puis, souvent, on se rend compte que les réponses, ils les ont. Et que nous, on est là juste pour aiguiller et puis corriger si effectivement il y a des choses qui sont pas vraies. Mais les réponses, ils les ont souvent.
Alors vous, Diana Gergaud, au départ, quand on vous a proposé ce programme, comment...
Les résultats n'étaient pas bons. Donc mon médecin traitant m'a proposé d'aller vers Catherine et l'Appui Santé. Quand je suis sortie de son bureau, je me suis dit, mais dans quoi je me suis lancée? Parce que je n'avais pas envie de suivre des cours. Je trouvais ça... que j'allais rien apprendre. Voilà. Et que ça allait être une perte de temps et que je vais encore me lancer avec des médecins. Et tout. J'en avais marre.
Ouais, le parcours médical, ça peut être lourd. Ouais.
Donc, quand j'ai reçu l'appel de Catherine, je suis allée mais un petit peu à reculons à la base.
Donc, la première rencontre, c'était quoi
C'était Catherine avec une infirmière. Juste.
Donc, on est obligé de faire ce qu'on appelle un bilan partagé pour entrer dans le programme. Donc, là, j'étais avec une infirmière qui se formait justement pour pouvoir en faire après par la suite. Et là, on fait vraiment le point sur les connaissances, les croyances, les difficultés. L'idée, c'est de faire parler le patient autour du diabète. Et on va essayer de faire après de définir c'est quoi les besoins et sur quoi on peut l'accompagner.
Donc vous faites faire aussi à chaque patient son profil de vie, quoi. Enfin, d'alimentation, d'exercice physique, etc.
Mais l'avantage, c'est qu'elle ne nous juge pas.
C'est juste une exposition.
Beaucoup de médecins jugent, déjà en nous regardant, parce que bon, on n'est pas mince, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela.
Il y a pas mal de grossophobie dans le corps médical, hein, c'est clair.
Voilà, tout à fait. Mm-hmm. Et avec Catherine, je n'ai pas du tout ressenti ce jugement. Elle avait une façon de s'exprimer avec sa copine infirmière. En moins de 5 minutes, elle m'a même convaincue de mettre un patch, alors que j'étais contre le patch.
Un patch de quoi ? Pour faire quoi ?
Pour tester la glycémie.
Ah, un capteur ça existe. De glycémie.
Ah ouais, le fameux capteur, d'accord.
Mm-hmm. J'ai dit, mais elles sont hyper convaincantes. Et puis bon, la relation fait qu'on discutait et ça se passait très bien. Et comme je lui ai dit, moi, ok, je le fais, mais que 15 jours. Quoi. Après, j'enlève.
Alors qu'en fait, c'est toutes les semaines, c'est ça le rythme des réunions, à peu près avec c'était des troupes, peut-être, un peu
tout, ouais, c'était tous les mardis, en gros.
Tous les 15 jours,
non,
ça dépend
de la journée. Une fois par semaine. Bah, après, il y a les vacances scolaires
ouais,
où
ça.
On enlève les ateliers, mm-hmm. mais c'est une fois par semaine. Ouais.
Donc, une dizaine d'ateliers. Ensuite, quelle est la suite du parcours?
Et bien, à la suite de ces ateliers, de ces séances collectives, on va refaire un bilan pour voir où on en est. En fait, est-ce qu'on a répondu aux attentes, aux objectifs qu'on s'était fixés au démarrage ? Est-ce qu'il y a encore des questions, des choses qui n'ont pas été réglées ? Et puis normalement, si tout se passe bien, on arrête en fait la prise en charge, en tout cas par Appui Santé. Ce qu'on a proposé, parce qu'on trouvait que c'était un peu dur de les lâcher après 10 séances tout seul, ce qu'on a proposé, c'est de faire aussi un lien avec l'AFD29, donc l'Association des diabétiques du Finistère, qui du coup, depuis septembre, je crois, fait une permanence une fois par mois à Crozon pour faire un café discussion qui permet de garder du lien entre eux, parce qu'il y a aussi eu des belles rencontres pendant les séances collectives. Et puis les gens, du coup, ont envie de se revoir, continuer à discuter du diabète.
Et vous, Diana, qu'est-ce que ça vous a apporté, le côté collectif, justement ?
Justement, le fait de pouvoir discuter sur cette maladie, le fait que j'appréhendais que ma maladie n'augmente et de passer à l'insuline rapide, ce qui me posait un gros problème. Bon, maintenant, je relativise tout, je sais que je ne suis pas seule, je sais qu'on peut discuter facilement, je sais que même Catherine est là, quelque part. La sécurité, parce que quand vous faites des hypoglycémies à 0,50, vous êtes très mal. Donc la peur est là, savoir comment réagir, comment les autres aussi réagissent face à ce genre de problème, et ne plus se sentir seule, en fait aussi, ça aide.
Et vous avez appris des choses, je suppose. Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple ? Vous disiez tout à l'heure les féculents, là. Qu'est-ce que...
Voilà. Donc on peut manger de tout, mais raisonnablement et faire des pâtes avec des légumes, voilà. Même manger un petit gâteau à la fin, si c'est pas tous les jours, c'est bien. On peut manger du sucre. Moi, dans mon sac, j'ai du sucre. Dans ma voiture, j'ai des jus de fruits. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Quand je tombe à pelouse, j'ai les téléphones, j'ai tout ce qu'il faut avec moi.
Ah oui,
je suis rassurée.
Oui, parce que vous pouvez avoir des crises d'hypoglycémie. C'est ça se traduit comment ? Comment vous savez que
des tremblements, de la sueur. Et vous êtes vraiment, vraiment pas bien, quoi. Vous pouvez même pas prendre un verre d'eau tellement vous tremblez.
Ah oui.
Ouais.
Oui, donc quand même. Catherine Weber, donc, quelles sont les idées reçues qu'on a sur le diabète quand on n'est pas concerné ?
Je crois que la première qui revient le plus souvent, c'est « je suis diabétique, j'ai plus le droit de manger du sucre ». Ça, c'est
du sucre rapide, quoi. Enfin, les fameux.
Ouais. On ne fait même plus trop le distinguo. Ah, on parle de sucre. J'ai des patients qui ont supprimé les féculents. Hein, parce que pour eux, voilà, tous les sucres étaient à bannir.
Alors qu'en fait, si, on peut en manger.
On peut en manger. Après, voilà, il y a la quantité. On a parlé de quantité. Il y a à quel moment de la journée je vais les manger.
Ah oui. Il y a un meilleur moment, c'est quand ?
Le fait de le prendre au cours du repas, le sucre rapide va être mélangé, comme je vous disais tout à l'heure, au bol alimentaire. Donc, il n'aura pas le même impact sur la glycémie s'il est pris en plein milieu de l'après-midi tout seul.
Les féculents donc, aussi.
Alors, les féculents, c'est des sucres lents, donc qui vont être plus longs à digérer. Donc, il n'y aura pas le même pic glycémique avec un féculent qu'avec un sucre rapide. Donc, beaucoup d'idées de restrictions et de régimes alimentaires particuliers sur le diabète qui existaient avant, si longtemps que ça, hein, on parlait de régime diabétique, même dans les hôpitaux, maintenant on est en train de revoir ça parce qu'on avait des régimes diabétiques, même en maison de retraite. Hein. Donc voilà, tout ça évolue et c'est vrai que souvent on est plus là pour rassurer et pour dire qu'il y a des choses qu'on a le droit de manger que pour être dans la restriction. Après, c'est la quantité, la qualité de l'alimentation qu'on va essayer de modifier, mais on ne va pas supprimer tout. C'est pas le but, en fait.
Est-ce qu'il y avait des séances de cuisine collective dans votre programme?
Alors,
cours de cuisine, entre guillemets, atelier?
Non, je pense que ce serait quelque chose qui serait vraiment apprécié. Là c'est plus une histoire d'organisation à trouver et de locaux. Mais oui, ce serait quelque chose, je pense, qui serait intéressant à proposer. Là, on a plutôt été sur déjà comprendre les différents nutriments qu'on avait besoin. Faire vraiment une séance entière sur les sucres. Et après, à la fin, on essaye de composer des repas ensemble pour voir un peu l'équilibre alimentaire, comment il peut se retrouver au quotidien. Mais oui, je pense qu'un cours de cuisine serait très apprécié et serait utile.
Et qu'est-ce que vous avez changé dans votre alimentation, Diana, dans votre façon de manger ou vos menus?
Déjà de rajouter des légumes, ce qui fait pas de mal.
Vous êtes habitué finalement au goût?
Oui, je me suis habituée au goût. Oui.
Si c'est bien cuisiné, ça peut être très bon.
Ouais, du moment que j'en mange. Voilà, non, mais c'est vrai que... Bon, moi j'ai toujours l'habitude, comme je disais, de manger à des heures régulières. Maintenant, il faut que j'arrive à décaler aussi les heures des repas, parce que comme je disais à Catherine, des fois j'ai pas faim. Mais je vais quand même manger parce que l'appréhension...
Ah oui, or il ne faut pas le faire, ce n'est pas conseillé.
Alors,
si, il faut quand même manger à des heures régulières, non?
Alors, régulière, pour le diabète, c'est vrai que c'est bien d'avoir quand même un rythme assez régulier, mais c'est bien aussi d'avoir faim quand on mange. Voilà. Et pas manger par habitude.
Et moi, là, je mangeais par habitude.
Ah oui.
Bah, c'était, mes parents, c'est comme ils vivaient, enfin, mon père était gendarme, c'était midi, 7 heures.
On ne déroge pas.
Donc maintenant, j'apprends à décaler. Si mon taux de sucre il est bon, je ne vois pas pourquoi je ne mangerai pas à 8 heures.
Uh-huh. Voilà. En effet.
Ça va m'éviter de grignoter à minuit si j'ai envie de quelque chose.
Alors, dans le programme, j'imagine qu'il n'y a pas non plus de séance de sport adapté ou de...
Alors, dans le programme de Guy Pava, donc à Guy Pava, on a une séance à activité physique adaptée. Donc là, il nous manquait juste une intervenante sur la presqu'île, mais on a une kiné qui s'est formée là sur la session de formation qui va pouvoir. Donc là, pareil, en janvier, il faut qu'on réfléchisse à l'organisation parce qu'il faut une salle, du matériel pour faire cette séance.
Ça consisterait en quoi, par exemple?
Là, c'est de montrer à des patients que on peut faire de l'activité physique même quand on a des soucis de santé et qu'on adapte en fonction de la mobilité, de nos capacités. Donc c'est des séances avec des exercices assez simples à faire. Par tout le monde.
Diana, l'exercice physique
Je fais de la marche.
Ouais.
On a une gentille infirmière qui nous fait marcher tous les mardis.
Bon.
On part à 10h, on vient à 11h30, midi. Mais c'est très agréable aussi, c'est un groupe hyper sympa.
Ouais. Vous avez plus envie de faire de l'activité physique avec d'autres personnes, en fait, c'est ça
Bah oui, ouais. Toute seule, c'est pas agréable. Déjà, il faut se motiver, donc... Moi, je me motive avec les écouteurs, mais c'est mieux d'être en groupe, de partager des idées, surtout.
Hors antenne, on parlait de petits trucs pour faire de l'activité physique, même en étant sédentaire. Vous en avez, par exemple, vous? Est-ce que vous avez votre pédalier sous le bureau?
C'est mieux que ça. J'ai un appareil qui vibre.
Ah ouais. Catherine, qu'est-ce que vous avez comme truc à nous suggérer?
Non, c'est vrai que le pédalier, pour ceux qui sont toute la journée au bureau, le pédalier qui s'installe sous le bureau, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, c'est d'essayer de marcher aussi, même si c'est pas longtemps. Enfin, des fois, on se met des objectifs beaucoup trop élevés et on se met en échec. Hein. Donc, des fois, d'aller marcher juste après manger 10 minutes, un quart d'heure, c'est toujours ça de pris. En fait, c'est d'augmenter l'activité de son quotidien, prendre les escaliers, garer sa voiture peut-être un peu plus loin. Déjà, de se fixer des objectifs qui sont réalisables pour essayer d'augmenter cette activité, d'avoir aussi peut-être un podomètre pour se rendre compte aussi de ce qu'on fait tous les jours. Parce que des fois, on est surpris, effectivement.
Ouais.
On parlait de challenge tout à l'heure, de se mettre des petits challenges sur augmenter un petit peu mon nombre de pas. On ne va pas devenir sportif du jour au lendemain quand on n'a jamais fait de sport de sa vie. Donc, c'est d'aller vraiment avec des objectifs réalisables. Et puis, ça fait du bien, pas qu'au diabète. Hein. C'est pour plein de choses.
Et un petit mot des traitements. Il y a eu des problèmes avec les médicaments pour les diabétiques récemment. Là, c'est un peu réglé, ça?
Je pense qu'en ce moment, on a moins de problèmes de rupture. Mais effectivement, il y a certains traitements qui étaient en rupture en pharmacie, ce qui a provoqué pas mal d'angoisse aux patients parce qu'ils ne savaient plus trop comment gérer. Là, je crois que c'est à peu près rentré dans l'ordre.
Vous n'avez pas eu d'ennui, Diana, avec votre médicament? Si.
Je n'en avais pas pendant 3-4 mois. Donc, le Victoza était en rupture de stock, comme l'Ozempic, je crois aussi.
On ne vous donnait rien à la place, en fait? Ah ouais, oui, c'est un problème quand même. Ouais.
Donc
ouais.
La prise de poids, puisque c'est des cachets, c'est des piqûres qui font qu'on limite la prise de poids quand même. Ce qui est important.
Mais d'ailleurs, ils sont utilisés de plus en plus, ces médicaments, juste pour faire perdre du poids aux gens qui ne sont pas diabétiques. Quoi.
Voilà, et du moment que vous mangez un peu moins, votre diabète est déjà mieux, plus équilibré.
Oui. Oui, vous avez quand même juste réussi à réduire la glycémie sans médicaments, juste avec vos changements de comportement. Quoi.
Si. Il faut toujours les cacher et les piqûres.
Oui, quand même.
Ah ouais, c'est une obligation.
Ouais, on ne peut pas guérir du diabète, Catherine Weber.
Une fois qu'on est diabétique, on ne guérit pas du diabète. Par contre, on peut équilibrer son diabète. On ne revient pas à un stade non-diabétique quand on est diabétique. Mais par contre, si effectivement on a des traitements et on a la bonne, on va dire, l'alimentation et activité, on peut effectivement être équilibré. Et tant qu'on est équilibré, on va dire que les complications sont normalement moins importantes.
Et pour participer à ce programme, il faut donc une prescription médicale.
Alors, c'est pas vraiment une prescription médicale, mais il faut que ce soit un soignant. Enfin, on préfère que ce soit le médecin traitant, voire une infirmière, un soignant qui fasse une demande en fait au niveau d'appui santé. Donc, il y a un site internet avec un formulaire demande d'appui pour nous demander de prendre en charge effectivement le patient. Après, c'est un droit, l'éducation thérapeutique depuis 2009 dans la loi française, c'est un droit de tous les patients chroniques à avoir accès. Donc, ça peut effectivement passer. On va dire sans les soignants, mais c'est mieux parce qu'on préfère en fait travailler, nous, avec les soignants et que le médecin soit au courant de ce qu'on fait avec le patient.
Bon, un programme donc, d'éducation thérapeutique diabète proposé par la communauté professionnelle territoriale de santé. Merci à toutes les deux d'être venues.
Merci à vous.
Merci.